Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Et voilà, nous sommes en automne, les feuilles tombent, les prix littéraires aussi. Alors, il y a les prix prestigieux, comme on dit, et puis juste derrière, ou juste devant, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ce qui nous intéresse beaucoup plus, il y a ceux qui sont spécifiquement décernés à des romans policiers, à des polars.
Donc, à des romans noirs.
Voilà, alors particulièrement en automne, parce que beaucoup de festivals, moins cette année, mais il en reste quelques-uns, donc... Déjà, premier week-end d'octobre, c'était un aller-retour dans le noir à Pau. Et le prix de ce festival avait été décerné, à Miklan de Sébastien Hautez. Donc, nous vous avions parlé déjà au printemps. Excellent roman qui se passe au Mexique et qui est paru à La Noire. Chez Gallimard. Le week-end suivant, ce fut TPS, Toulouse Polar du Sud.
À Toulouse, donc.
À Toulouse, plusieurs prix décernés. Le prix Violetta Negra a été attribué à Rosa Montero, un bouquin à la marge de la science-fiction et du polar qui s'appelle Le Temps de la Haine, et c'est paru aux éditions Métayer. Et puis enfin, il y a l'association 813 qui, en septembre, a annoncé l'ensemble de ses trophées. Alors, ça va faire un petit peu énumération parce qu'il y a 5 trophées, mais ça vaut le coup de les citer puisque ce sont de très bons conseils de lecture. Donc, un trophée pour les romans francophones, décerné cette année à Morgane Dick, un jeune auteur français, pour un roman qui nous entraîne à Tchernobyl et qui s'appelle « De bonnes raisons de mourir », c'est édité chez Albin Michel. Il y a aussi un trophée pour les romans étrangers, qui s'appelle le trophée Michel Vita. Et là, c'est un grand du polar sud-américain qui a été récompensé, puisque c'est Leonardo Padura, pour le dernier roman paru chez Métayer, le dernier roman 2019, mais c'est le dernier roman traduit de cet auteur. Roman qui s'appelle « La transparence du temps », où l'on retrouve son magnifique personnage principal, Mario Conde.
Et réédité en poche depuis.
Certains de ses romans sont déjà édités en poche. Il y a le trophée de la bande dessinée aussi. Donc c'est les éditions Sarbacane qui sont à l'honneur cette année, avec Emmanuel Moineau et une BD qui s'appelle No Direction. Je pense qu'il faut le dire en anglais.
Hein. No Direction, yes.
C'est pas No Direction, je pense pas.
Non.
Il y a aussi un trophée qui est consacré à un essai, une contribution au genre, quelque chose qui promet en fait, qui promeut, mais avec plein de promesses évidemment, la littérature policière. Et cette année, c'est un article. Un article d'Alfu et Bonacorsi, paru dans la revue Rocambole, et autour du mythique Gigi Arnaud. Et c'est d'autant plus beau de voir ce prix, ce trophée, que Gigi Arnaud nous a quittés il y a peu de temps. Donc c'est aussi un très bel hommage.
Quand on dit un article, c'est un bel article, copieux. Hein,
oui, on peut presque dire un essai, je pense. Hein. J'ai dit article parce que... parce que c'est paru dans une revue, voilà, c'est surtout pour ça. Je crois que j'en ai oublié un, hein. Ben oui, c'est le nouveau qui consacre une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Et cette année, donc, le recueil de nouvelles qui a été trophéisé, qui a été révélé, c'est Banlieue parisienne noire. C'est un collectif, donc, une douzaine d'auteurs qui ont écrit autour de lieux qui entourent Paris. Et c'est un recueil paru chez les éditions Asphalt, recueil coordonné, les nouvelles ont été coordonnées par Hervé Delouche. Et puis j'ai oublié, je reviens à Toulouse, c'était la semaine dernière, je reviens, parce qu'on voulait annoncer aussi le prix des chroniqueurs, qui a été attribué à un livre paru chez Rivage, Les Abattus de Noël Renaud, roman paru aussi il y a quelques mois. Et justement, le livre dont on va parler maintenant, dont je vais parler maintenant, il commence à collectionner bien des prix et je pense que ce n'est pas fini. C'est juste un roman magnifique. Je dirais magnifique et déchirant. Terrible et enthousiasmant. Un premier roman et une réussite. Le roman s'appelle « Ce qu'il faut de lui ». Il est paru fin août, oui, je crois, le fin août à la Manufacture de Livres. Et son auteur, donc un nouveau venu dans le monde de la littérature, c'est Laurent Petit-Manchin. Un nouveau venu, mais je pense qu'on va en entendre parler. « Ce qu'il faut de nuit », c'est le premier vers d'un poème de Jules Supervielle qui s'appelle le poème « Vivre encore ». Justement, « Vivre encore », ça pourrait être le titre « pour ce père et ses deux fils, seuls, parce que la mère, elle a été emportée par un cancer. Alors le père, employé à la SNCF, il fait tout pour bien les laisser élever, ses petits. Deux enfants, le gros, Gilou, et Fus, l'aîné. Ses fils, comme dit Laurent Petit-Manchin, la plus belle vue du monde quand il les emmène en voyage, en camping au Luxembourg. Le père, ce qu'il veut, c'est leur construire un avenir, si possible loin de la Lorraine, ce pays sinistré, en proie au chômage et à la misère. Alors, le petit Gilou, il est plutôt dans le moule, bon résultat scolaire, et il va pouvoir, aidé par un ami, partir à Paris, faire une belle école, se construire un avenir. L'autre Fus, c'est difficile, mais il est doué pour le foot, alors qui sait ? Le père, il s'enthousiasme, il l'emmène à tous les entraînements, à tous les matchs. C'est peut-être un moyen de s'en sortir. Mais il déchante vite. Les bulletins de notes deviennent vraiment mauvais. Et puis Fus, il commence à partir avec ses copains en vacances, plutôt qu'en famille. Et son père, il reste impuissant. Il ne dit rien. Il a tant de choses à faire, à commencer par garder son boulot, parce qu'il faut les faire vivre, il faut les faire manger, il faut leur donner un toit, ces petits. Il faut garder son boulot, résister pour leur avenir. Donc il ferme les yeux, mais pas son cœur. Et la déchirure arrive. Son fiston, la chair de sa chair, traîne avec l'extrême droite. Et il se radicalise, on peut le dire, de plus en plus. Lui qui est encarté à gauche depuis des années. Bref, ça aurait pu être pire, mais le roman Petit Manchin écrit « J'avais un fils différent. Les gens semblaient s'en accommoder ou faisaient semblant. Fus n'était pas toxico. Ce n'était pas une saloperie qui terrorisait le quartier. Et ça leur suffisait. Je faisais juste gaffe à ce qu'il me disait, à ne pas commettre d'impair, pas à me faire mal avec une réflexion à la con, un peu comme si je leur avais annoncé que Fus était homo. À la peine, à l'incompréhension, s'ajoute donc la honte. Et le fossé grandit entre le fils et le père. Juste Gilou, le petit frère, qui est protégé par l'un comme l'autre et qui aime autant l'un et l'autre, il va les réunir de temps en temps, justement quand le petit, le gros, il rentre de Paris, de ses études. Ils arrivent à se retrouver un petit peu tous les trois. Mais ça n'empêche, le silence est là et la descente aux enfers ne fait que commencer. C'est vraiment un roman d'absence et de silence. L'absence de la moment, comme on l'appelle tout au long du roman, l'absence de clés pour comprendre et surtout l'absence de mots, voire de gestes. Pour montrer à son fils que, même de l'autre bord, même s'il lui fait la honte auprès de ses amis syndicalistes, son père, en fait, il l'aime et il ne cherche maladroitement qu'à essayer de lui montrer. C'est un récit à la première personne pour nous dire les choses simples et simplement. Les vacances au Luxembourg, un repas partagé, le fils cadet qui réussit, l'ami de la famille, Jérémy. Et puis, toujours, Fus qui tombe et ne peut se relever. Un roman simple, écrit simplement, pour nous dire que le manque de mots, le manque de temps, la fatigue sont des mots rédhibitoires qui sont aussi souvent un signe de classe sociale. Car c'est un roman aussi de la condition ouvrière. C'est drôle d'ailleurs. Ce mot « condition », est-ce qu'on parle de la condition cadrière ou condition médicale ? C'est donc un mot très lourd de sens. Au début de la chronique, je vous ai parlé du poème de Supervielle dont était issu le titre du roman, « Premier vers, ce qu'il faut de nuit ». Le livre aurait bien pu s'appeler comme le dernier vers du poème, « Le seau est si lourd ». Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur les épaules du père. C'est un texte sobre, dépouillé sur le pardon, la résilience que ne trouve jamais ce père. Père qui jamais ne se résigne, mais qui jamais ne se relève. Pour un jour, un moment, arriver à dire à son fils « je t'aime », au moins à lui montrer une fois. Je l'ai déjà dit au début du roman, au début de la chronique, mais je le redis, c'est vraiment un roman où l'émotion est à fleur de mots, à toutes les pages. Et je rajoute, j'ai aussi déjà dit, mais j'insiste, c'est d'une sobriété exemplaire. Sauf à de rares moments où Laurent Petit-Manchin laisse filtrer des bribes de ce qui pourrait ressembler au bonheur. Petite lecture. Août, c'est le meilleur mois dans notre coin, la saison des Mirabelles. La lumière vers les 5 heures de l'après-midi. la plus belle qu'on puisse voir de toute l'année. Dorée, puissante, sucrée et pourtant pleine de fraîcheur. Déjà pénétrée de l'automne, traversée de nuances de vert et de bleu. Cette lumière, c'est nous. Elle est belle, mais elle ne s'attarde pas. Elle annonce déjà la suite. Elle contient en elle le moins bien, les jours qui vont rapidement se refroidir. Il y a sûrement des étés indiens en Lorraine. On dit beaucoup de la lumière du nord de l'Italie en été. Je veux bien le croire. Je n'y suis jamais allée, mais je suis prêt à parier que la nôtre, pendant cette toute petite période, ces 15 jours d'avant la rentrée, à ce moment précis de la journée, la surpasse haut la main. La lumière des derniers apéritifs dehors. Les gens sont heureux. Voilà, c'est très fugace, mais c'est très beau. Voilà, je rappelle ce roman qui est vraiment un de nos coups de cœur, « Ce qu'il faut de nuit », Laurent Petit-Manchin, aux excellentes éditions La Manufacture de Livres. Et pour illustrer cette chronique, on a demandé à Laurent Petit-Manchin un morceau de musique qui lui ferait plaisir, et ça tombe bien, c'est un morceau que l'on aime aussi beaucoup. Il faut avoir quelques années pour bien le connaître quand même, hein, Jacques.
Le titre pourrait tout à fait correspondre aussi à une partie du roman, et donc le titre c'est « Comme un avion sans ailes ». Le chanteur-compositeur, c'est Charles Elie Couture, qui partage avec Laurent Petit-Mangin le fait d'être des environs de
la Lorraine,
de Nancy, de la Lorraine. Voilà, donc comme un avion sans ailes. De Saint-Balpour, ou de Saint-Balpour. Il est traduit par Fanchita Gonzalez Battle, traduit de l'anglais aux éditions Liana Levy. On en a déjà parlé de cet auteur, c'est la deuxième enquête, je devrais même dire la deuxième aventure des deux flics créés donc par Mukherjee. Je rappelle, pour ceux qui ont raté le premier épisode, le capitaine Widham, qui est un Écossais, blessé à la guerre de 14, plus ou moins opiumane, enfin je dis plus ou moins, il est carrément opiumane, pour guérir ses cauchemars de la guerre. Il est parti du coup depuis l'Écosse en poste à Calcutta, en Inde donc. Il est assisté d'un adjoint, le sergent Banerjee, qui lui est un Indien. Il a fait quelques études en Écosse, mais fait bel et bien partie des indigènes, avec tout ce que cela peut avoir de péjoratif dans l'esprit de l'époque.
Oh oui.
Et peut-être encore maintenant,
oui.
Probablement. Le roman commence comme un film d'action. Deux morts, deux poursuites dans les rues de Calcutta. J'oublie de préciser, mais je l'ai un peu dit, que le récit se passe en 1920. Donc, poursuite ni d'Aston Martin, ni de Ford Mustang. Mais par contre, une très très belle torpedo, une Alfa Romeo 2030 HP, magnifique voiture, regardez sur Internet. Le premier mort, c'est le prince héritier du royaume de Saint-Balpur.
D'où le titre.
Il avait reçu des menaces de mort, et il est mort, assassiné. Il décède quasiment dans les bras des deux policiers. Ils ne sont pas trop particulièrement heureux de ces circonstances. Le second mort, c'est son assassin, qui, au cours de la poursuite, se suicide plutôt que d'être pris. Après un début en fanfare, on change un peu de rythme. On va suivre les deux flics dans leur enquête au cœur du royaume de Sambalpur. Calcutta est déjà bien exotique pour un lecteur européen du XXIe siècle, mais le Sambalpur, ça l'est encore bien plus. Rien que le voyage en train vaut son pesant de cacahuètes, et je ne vous raconte pas le séjour dans le palais princier avec, au milieu de la cour, les futurs potentiels successeurs du Maharaja vieillissant, puisque du coup...
C'est no good.
Il y a un petit peu de ça. Il y a les passages dans le Zenana. Alors, le Zenana, c'est le nom du harem dans... c'est le harem avec évidemment ses intrigues de couloir et d'alcôve, les rivalités entre les épouses, on les appelle les maharanées, et les favorites. Heureusement, en fait, en ce qui concerne le harem, que le capitaine qui enquête, malgré tout, il va être aidé par la belle Miss Gant, pour qui il est bien plus facile de pénétrer dans le harem qu'un homme.
Parce
que
pour moi, d'être eunuque.
Voilà, donc le capitaine n'est pas prêt à sacrifier...
une partie de son individu.
Voilà, pour résoudre l'intrigue. Alors, raconté comme ça, on pourrait croire que le roman ressemble au film un peu kitsch de Fritz Lang, Le Tigre du Bengale, Le Tombeau hindou. Mais pas du tout, en fait. Bien sûr.
Ce qui ne serait pas vraiment une critique.
C'est pas vraiment une critique.
C'est intéressant.
Oui, mais c'est pas du tout kitsch, en fait. C'est vraiment, il raconte les choses telles qu'elles sont. Elles étaient un peu kitsch à l'époque parce que c'est des petits royaumes qui vivaient comme ça. Et les deux flics, en fait, ils vont vraiment vivre de sacrées aventures. Il va y avoir la pluie, les balles de fusil, les crisses, les grands sabres. Et même.
C'est pas des sabres, attention.
Et même, des coups de là. Et même des supplices avec un éléphant. Donc, ça, c'est des aventures qui vont bel et bien être réelles. Mais en fait, le propos du livre, sous couvert d'une enquête et d'un ton assez léger, voire drôle, il est bien plus politique qu'il n'y paraît dans tout ce que je viens de dire jusqu'à présent.
Politique kitsch, quoi. C'est un nouveau genre que tu peux définir. Hein.
Voilà, le racisme, c'est un élément important du roman. Il est banal. Tant le sentiment de supériorité des Anglais et des Blancs en général, c'est un sentiment qui est vraiment puissant. Pourtant, le peuple est en train de s'émanciper, mais les expatriés ne voient rien venir avec leurs œillères de colons sûrs de leur bon droit. Quelques petits extraits courts pour illustrer un peu mon propos. La hiérarchie est une drôle de chose, n'est-ce pas, capitaine ? Donc c'est le prince, avant de mourir, qui parle. Que voulez-vous dire, votre Altesse ? Prenez l'exemple de nous trois, un prince, un inspecteur de police et un sergent. À première vue, notre position relative dans l'ordre des préséances est claire. Mais les choses sont rarement aussi simples. Il nous indique sur la gauche les grilles du Bengal Club. Je suis peut-être prince, mais la couleur de ma peau m'interdit l'entrée de cette auguste institution. Et il en est de même pour Boubou. Boubou, c'est le petit nom du sergent. Vous, en revanche, en tant qu'anglais, vous ne connaîtrez pas cette difficulté. À Calcutta, toutes les portes vous sont ouvertes. Et soudain, notre hiérarchie est différente, non ?
Un deuxième extrait.
Un anglais a horreur de partager ses pensées intimes. C'est un fait. C'est pourquoi nous avons accepté la réforme aussi volontiers. Nous avions du mal à nous confesser, même à un prêtre. Et si nous répugnons à nous ouvrir à un homme de Dieu, nous sommes totalement incapables de le faire devant un indigène. Ce serait un signe de faiblesse. Et le dernier. Beaucoup d'hommes blancs ont des maîtresses indigènes. Bon sang, la femme que j'aime depuis un an n'est pas blanche comme Lys. Et pourtant, pourquoi faudrait-il que ce soit différent quand un Indien tombe amoureux d'une femme blanche ? Et pourtant, tous les hommes anglais le savent, ou plutôt le ressentent, car personne ne nous l'a appris de façon explicite, nous l'absorbons avec le reste des inepties à propos de la supériorité de l'homme blanc. Et bien que je regrette l'essentiel de cette absurdité, il me semble que l'amour entre un Indien et une Anglaise soit une chose que je ne peux pas tout à fait accepter.
Léger, mais...
Il y a encore du travail à faire. Il y a aussi, ce qui est très important dans ce roman, le rôle éminent de la East India Company, qui régnait carrément sur toute l'Inde à cette époque-là, plus que le royaume anglais. Et cette East India Company importait du thé et des épices, certes, mais aussi de l'opium, bien plus lucratif. Et la compagnie qui, pour préserver ses profits faramineux, N'hésitez pas à l'époque, certaines doivent encore le faire de nos jours, à recourir au meurtre, aux menaces, au chantage, à la corruption. Et ils étaient capables de faire ou de défaire des gouvernements, des princes ou des roitelets dans tous ces petits royaumes. Mais évidemment, je disais qu'il y avait de l'humour, et on retrouve ce qui faisait le sel du premier roman, qui s'appelle, je vous le rappelle, je ne l'ai pas encore dit, L'attaque du Calcutta d'Arjeeling. Je précise qu'il sort en poche ces jours-ci. On retrouve donc l'humour et la dérision de l'auteur, représenté, enfin l'auteur est représenté par le capitaine Widam, mais aussi un petit peu par le sergent Banerjee. Un petit exemple d'humour, c'est les mots dans la bouche du capitaine. Le prince se révèle un excellent danseur, ce qui renforce mon antipathie à son égard. Il y a quelque chose de fondamentalement douteux chez un homme qui sait danser. Le capitaine est en fait surtout jaloux que le prince s'accapare la belle Annie, pour qui il a une inclination de plus en plus forte par rapport déjà au premier roman. Il dit un peu plus loin, dans la même soirée, presque à la fin. C'est le colonel qui parle. Vous partez ? Demande le colonel. Ah, je crois que la soirée touche à sa fin, dis-je en soupirant. Il vous faut un tonique. Ah, oubliez le tonique, ne me donnez que le gin. Le capitaine fait un petit écart à sa boisson favorite qui, en tant qu'écossais, est bien sûr le whisky single malt. Le whisky single malt. Sa marque préférée étant le Glenfarclas, ce qui prouve que ce monsieur a beaucoup de goût. Je ne sais pas si c'est le capitaine ou l'auteur, mais l'auteur en fait a réussi en déjà deux romans à créer un petit univers avec ce Calcutta de 1920. Il y a des personnages qui reviennent, comme Annie Grant, je l'ai déjà évoqué, d'autres qui ne font qu'apparaître, comme l'infâme colonel des services secrets. Bien sûr, les rapports entre le capitaine et son sergent et son adjoint, le sergent Banerjee, évoluent lentement alors que le capitaine commence à s'adapter au pays et on découvre petit à petit les rouages secrets. Et cela crée du coup un effet série, un effet addictif, alors qu'à la fin de ce roman, alors que le premier vient de paraître en poche, on attend déjà presque le troisième. Et il y en a déjà quatre écrits en anglais, donc le temps que le troisième paraisse, je pense qu'il en aura peut-être même écrit un cinquième, M. Abir Murkirje. Donc, Les Princes de Saint-Balpur, ou Saint-Balpour, paru, c'est Liana Lévy.
Un petit peu de musique pour illustrer.
Un petit peu de musique, donc.
Dans notre émission Siroc.
Voilà, donc, eh ben, tu m'as suggéré d'écouter un extrait des Indes galantes de Rameau, ce qui finalement convient bien, car il y a pas mal de galants dans ce roman. Mais plutôt que la version de William Christie, on va écouter l'adaptation qu'en ont fait Violaine Cochard et Édouard Ferlet, donc deux musiciens, une claveciniste et un pianiste. Et c'est tout à fait magique et magnifique. Donc le morceau s'appelle Les Cinq Sauvages. après ces quelques notes de Violaine Cochin au clavecin, nous allons changer, mais alors totalement.
Ah oui, là, on va changer radicalement d'atmosphère, tout au moins. Tout à l'heure, en début d'émission, je vous ai parlé de mon premier coup de cœur de la rentrée. Voici mon deuxième. Ce ne sera pas le dernier. Il s'agit d'un gros roman, très gros. Mais vous dévorerez les 700 pages de ce très beau récit qui est paru début d'automne, pardon, fin d'été, chez Gallmeister. Le nom du roman, c'est Betty. Il a été écrit par Tiffany McDaniel et traduit par François Happ. C'est le premier roman qui nous arrive de cet auteur. Betty, nous la rencontrons... Betty, évidemment, le personnage principal. Nous la rencontrons au début des années 60. Elle est née dans une baignoire et dans une grande famille. Le père, un Cherokee, a littéralement enlevé sa mère à son grand-père, le grand-père de Betty. C'était un homme brutal. Apparemment, la normalité dans ce coin des États-Unis, coin paumé, on peut le dire. Huit enfants naîtront de cette union. Mais Betty va grandir dans une fratrie de 6. La mortalité infantile frappait encore très fort ces années-là, surtout dans ce milieu-là. Au milieu de ses sœurs et frères, Betty est celle qui est la plus typée. Typée Cherokee. Ce sera la petite indienne pour son père. Un père fait pour être père, précise Betty, qui est la narratrice de ce roman. Et on va suivre cette famille qui, après des années d'errance, s'installe à Braefhead. Braefhead. J'avoue que je ne sais pas comment on prononce ce fichu village de l'Ohio, ça va mieux. Donc je suis B-R-E-A-T-H-D, voilà. Et ils s'installent dans une maison qu'on leur prête plus ou moins, ou tout au moins qu'on leur loue très peu par un copain. Une maison réputée maléfique. Un espèce de trou perdu où une petite fille basanée va subir le racisme et l'ostracisme de tous. À commencer dans le milieu de l'école. Ses copines de classe jusqu'à l'institutrice. Mais il y a le père. Un homme qui tente de maintenir la tradition de ses ancêtres. Tous ces contes qui lui viennent de ses pères et grands-pères. Et surtout, le père, c'est un merveilleux conteur d'histoire. Surtout lorsque sa petite indienne, comme il l'appelle, ou l'un de ses autres diamants, tous ses enfants, il l'appelle les diamants, il les a même sculptés, ces diamants. Donc surtout quand ses enfants, ils ont des bleus à l'âme. Et là, il devient un super conteur. L'histoire, par exemple, des saules pleureurs, ou bien l'histoire de l'œil fabuleux d'antan, qui permet de voir toutes les choses qui manquent dans une personne. C'est évidemment une personne Cherokee. Et puis il y a cet attrapeur agité d'étoiles, c'est-il pas beau ce nom-là, attrapeur agité d'étoiles. C'est un gros lion à la crinière toute noire qui a un jour emmené son père sur la lune, juste pour voir les bébés étoiles, les étoiles naître. Toutes ces magnifiques histoires, ça compense les malheurs qui s'abattent sur la famille. À commencer par la pauvreté dans cette Amérique rurale où le père ne garde pas longtemps un boulot. Puis il y a la mère. Étrange cette mère. C'est pas qu'elle est pas aimante, elle aime beaucoup son mari, elle aime aussi ses enfants, mais par exemple, voilà ce qu'elle offre comme cadeau d'anniversaire à Betty pour ses 9 ans. Elle lui parle et puis elle va lui raconter comment elle, le jour de ses 9 ans, sa mère, elle s'est fait violer par son père, avec le consentement de la maman, le jour justement de ses 9 ans à elle. Un pays rude, vous dis-je.
Donc elle perpétue la tradition.
C'est presque ça. Alors le soir, Betty, elle écrit. Je cite, « J'écrivais comme si tout coulait à flot du bout de mes doigts, toute la cruauté, toute la douleur. J'ai tout écrit pour faire une histoire qui me détruisait en même temps que je lui donnais forme. Pour rendre justice à ce très beau roman, il faudrait raconter encore et encore, parler de chaque enfant. » Qui ont chacun des caractéristiques à la fois soit terribles, soit magnifiques. Les deux sœurs, Flossie, Freya, de leur amour avec Betty, de leur petite bonne nuit qu'elles s'écrivent sur un bout de papier. Chaque soir où elles ne se voient pas, elles les mettent dans un bocal et elles se les offrent.
Dans un bocal.
Dans un bocal, oui. Mais comme il y a trois filles, ça fait trois bocaux. Il faudrait aussi parler de Lint, le tout petit, bégayeur, pas fufute, mais tellement bon. Et puis il y a Leland, l'aîné, le mauvais. Ce roman, il a le souffle des grands romans américains. Je le compare à ceux de Don DeLillo ou bien encore roman de Russell Banks. De par sa narration, ses histoires multiples qui racontent tellement bien la vie rurale de la société américaine des années 60. On sent, dans ce récit, des morceaux de la vraie vie, donc de la maman de Tiffany McDaniel. Et puis, il y a des fugues, des inventions, des fulgurances poétiques. C'est un roman, j'ai l'impression, écrit par strates. Les limons nauséabonds de la vue des sept familles, vite recouverts par une des pépites magiques que compte le père de Betty. Ce livre, c'est en gros un cri d'amour pour ce père, d'abord, avant tout pour le père, mais aussi pour les sœurs, pour la fratrie. C'est aussi, un des thèmes qui m'a beaucoup plu, un roman qui interroge énormément sur les conditions des femmes. Enfin, quand je dis interroge, plutôt nous montre, une fois de plus, à quel point les femmes avaient, dans les années 60, et ont encore beaucoup de chemin à parcourir, ou plutôt peut-être à reparcourir. Parce que comme vous allez le voir dans le désextrait que je vais maintenant lire, ben, dans la tribu Cherokee, il faudrait peut-être aller y puiser quelques leçons. Donc deux extraits.
Le premier.
Avant le christianisme, les Cherokees étaient fiers de leur société matriarcale et matrilinéaire. Les femmes étaient à la tête de la famille. Mais le christianisme a donné aux hommes un rôle prédominant. À la suite de ce bouleversement, les femmes ont été écartées de la terre qu'elles avaient possédée et cultivée. On leur a donné un tablier et on leur a signifié que leur place était à la cuisine. Aux hommes, qui avaient toujours été des chasseurs, on a dit qu'ils devaient maintenant travailler dans les champs. Les Cherokees ont vu leur mode de vie traditionnel éradiqué, de même que la répartition des rôles entre les deux sexes, qui avait permis aux femmes d'occuper une place assez importante et aussi importante que celle des hommes. Voilà, ça c'était avant. Quelques centaines de pages plus loin, ma sœur était tout simplement une de ces filles condamnées par une idéologie et des textes ancestraux selon lesquels le destin d'une femme est d'être bien comme il faut, obéissante et sagement séduisante, mais invisible au besoin. Clouée à la croix du sexe auquel elle appartient, une jeune femme se trouve coincée entre la mer et la côte biblique dans un espace réduit qui ne lui permet d'être rien d'autre qu'une fille qui vit auprès de ses frères, sans pour autant être leur égale. Ces garçons qui, eux, peuvent hurler comme des matous en rut, se vautrer dans la chair sans retenue, sans que jamais on ne les traite de traînés ou de putains comme ma sœur. Voilà. Donc
ça reste toujours un peu vrai. Dans beaucoup de sociétés.
Donc allez voir chez votre libraire et découvrez cette magnifique couverture en vague bleue qui se termine un peu par du rose. Tiffany McDaniel, Betty, et je crois que j'ai fait une grosse erreur, je crois que je n'ai pas traduit.
Si, François
Happ. Donc le traducteur aux excellentes éditions Gallmeister. Et ce roman se passant dans les années 60, on va utiliser un morceau qui est cité dans ce livre, un morceau d'Elvis Presley. Et comme j'ai beaucoup parlé, Jacques, je vais te laisser dire le titre.
Ouais, comme ça, avec mon magnifique accent. I can't help fall in love with you. Donc, pour info, c'est une des très jolies bluettes d'Elvis Presley, qui est extraite d'un film qui s'appelle Sous le ciel bleu de Hawaï, qui date de 1961. Et la chanson est quand même largement meilleure que le film. Elvis.
Say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like river flows surely to the sea. Darling, so it goes.
Bien voilà. On ne peut pas tomber en amour, nous dit Elvis Presley, mais je crois que l'auteur dont tu vas nous parler, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, que tu aimes beaucoup.
Oui, on aime beaucoup. L'auteur, c'est Carlos Salem. Le titre de son roman, c'est « La dernière affaire de Johnny Bourbon », un titre un peu bizarre, en tous les cas intrigant. Il est traduit par Judith Vernant et il est publié aux Actes Sud, enfin dans la collection Actes Noirs. Alors ce Johnny Bourbon, ben, c'est l'associé provisoire du détective basque Txema Arregi. Dans le roman, Arregi l'appelle plutôt Juanito, plutôt que Johnny Bourbon. Alors que son vrai nom, en fait, c'est Juan Carlos de Bourbon. On a déjà l'explication du Bourbon. C'est-à-dire, en fait, l'ex-roi d'Espagne. Et désormais roi émérite. Alors pourquoi Johnny Bourbon ? Ben, parce qu'un détective, cela doit avoir un nom américain. Et que l'un des déguisements préférés de Juanito, pour ne pas se faire reconnaître et pour échapper à ses gardes du corps, c'est de se vêtir d'un trench coat et d'un chapeau pour ressembler à Sam Spade ou à Philip Marlowe ou encore à Rick Blaine. Bref, en gros, le look à la Bogart. Pour mieux faire, il rajoute une petite moustache qui, bien sûr, ne trompe absolument personne. Arregui et Juan Carlos, Juanito, se sont connus en fait en 2011, alors que le roi, qui se faisait chier comme un rat mort dans son palais de la Zarzuela, décide d'aller faire une petite escapade au Portugal, dans le plus grand secret. Et c'est Arregui, à l'époque, inspecteur de police, qui est chargé de le ramener au bercail. Le roman s'appelait, et s'appelle d'ailleurs toujours, « Je reste roi d'Espagne », il est publié en Babel, je vous conseille de jeter un œil attentif sur celui-là.
Je précise que Babel, c'est la collection de poches de Actes Sud actuellement.
Bon, à ce moment de ma critique, il faut quand même que je précise, on parle du roi, tout ça, ce n'est absolument pas un roman historique. Carlos Salem est un poète, un romancier, mais surtout pas un historien. Par contre, comme il est argentin, cela lui permet de s'autoriser quelques libertés avec l'histoire qu'un Espagnol, pure souche, n'oserait peut-être pas. Bon, vous allez peut-être vouloir maintenant que je vous dise sur quoi enquête le détective et son adjoint de choc.
Oui, ce serait pas mal.
Eh bien,
enfin, s'il y a une enquête, vraiment.
Eh bien, en fait, il y en a deux. La première, c'est la mort suspecte d'un entrepreneur magouilleur. Il est détesté par tout le monde, mais c'est même tout le monde lui sont redevables, surtout les politiques, et ce, dans les deux parties. Véritable suicide ou meurtre habilement maquillé, c'est ce que va devoir déterminer Arregui. Il va enquêter pour le compte de son ancien chef dans la police. C'est donc une affaire officielle mais officieuse, en fait, ou alors c'est le contraire, une affaire officieuse mais officielle. L'autre enquête est plus bizarre. Une belle fille aux cheveux verts poursuit Arregui de ses assiduités pour qu'il l'aide. Mais qu'il l'aide à quoi ? Mystère, je ne vous le révélerai pas. Par contre, je vais vous lire les premières lignes du roman dans lequel Carlos Salem présente la jeune femme. Le chapitre s'appelle « Dahlia rouge ». Vous voyez qu'on est dans un roman noir. Depuis des décennies, la mythologie du roman noir et du film noir s'emploie à nous convaincre que les blondes sont fatales et que la chevelure des rousses porte la tragédie. Elle se trompe. En réalité, les femmes les plus dangereuses sont celles aux cheveux verts. La première fois, c'était lundi, et je la vis arriver à temps. J'allais sortir de mon bureau quand un claquement de talons un peu trop enthousiaste m'arrêta net. J'entrebâillais la porte en verre dépoli et je la vis tourner dans le couloir depuis la réception de l'agence. Mince, mais avec des formes. De longues jambes et le pas incertain de quelqu'un qui pense à autre chose. À trop de choses. Elle portait un imperméable court en vinyle rouge et un sac trop lourd pour ses belles épaules. Et un béret noir incliné sur le côté qui lui donnait un air de française et ôtait 5 bonnes années à sa trentaine. Elle avait les cheveux verts. Je reculai et fermai la porte et me plaquai contre le mur.
Si ce n'était les cheveux verts, on dirait que ça sort de Raymond Chandler.
Exactement, ça ressemble beaucoup, c'est tout à fait un hommage. Donc le détective privé, Arregui, il arrive à la cinquantaine et ça lui fait tracas. Sa compagne est morte, il n'a pu la sauver, sa mélancolie est donc à son comble. La fille aux cheveux verts va mettre un peu de boost dans sa vie, mais la mélancolie, le blues, ça ne s'en va pas comme ça. Et puis, il n'arrive pas à s'arrêter de fumer. Et puis, son père n'est plus en très grande forme. Carlos Salem n'a rien perdu de sa fantaisie et de son univers loufoque. Mais ce roman est surtout un véritable hommage au roman noir américain des années 30-50. Bien sûr, ça se passe à Madrid et de nos jours. Mais on y retrouve les grands classiques du roman noir. Corruption, prévarication, flic véreux et bien sûr...
La femme fatale.
La femme fatale, fut-elle avec des cheveux verts. Carlos Salem connaît bien le genre et il s'en amuse, mais toujours avec sa fibre poétique, son amour des mots et des femmes. Arregui adopte une petite fourmi qui squattait son bureau. Et donc, il y a désormais des instructions pour la femme de ménage, pour faire le ménage, nourrir et, évidemment, ne pas aspirer la petite fourmi. Ça rappelle d'ailleurs une histoire
magnifique
de René Frény.
Oui.
Sauf que là,
ça
finit mieux, c'est plus drôle, mais c'est tout aussi poétique. Quant au roi que j'évoquais au début, eh ben, il arrive toujours au bon moment pour tirer Arregui d'un mauvais pas. C'est là que l'on voit qu'on est dans la fiction. Car dans la vraie vie, l'ex-roi Juan Carlos, eh ben, il s'est exilé aux Émirats Arabes Unis pour échapper aux investigations de la Cour suprême espagnole. Et là, je ne suis pas sûr que le détective Arregui ou même Carlos Salem puisse faire quelque chose pour lui.
Contre lui, on pourrait plus s'imaginer.
Voilà. Donc, je ne saurais trop vous recommander de lire ce Salem grand cru qui s'appelle La dernière affaire de Johnny Bourbon.
Nous voici arrivés au terme de notre émission. Et voilà. Peut-être qu'on a encore le temps d'écouter.
On a encore un peu de temps pour écouter une bonne musique. Donc, on va écouter une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle Dance Me to the End of Love. C'est une des chansons qui illustre, en fait, elle est utilisée par Carlos Salem dans une des scènes les plus importantes, les plus tendres, les plus belles du roman. Donc, Leonard Cohen pour finir. À bientôt.
Is torn and dancing.
to the end of